Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui, édition du mercredi 31 décembre 2014. En direct de Washington, Camille Grosdidier et Georges Léonard Sagnot. Bonjour Georges.
Bonjour Camille, en ce dernier jour de l'an et bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, en Gambie, les autorités semblent avoir repris le contrôle de la situation.
Il y a eu un mouvement d'humeur de la part de certains militaires et donc là, véritablement, ils se sont tout petit peu révélés. Mais la situation a été maîtrisée tant soit peu.
Notre confrère Kandakar Ndiaye de la radiodiffusion télévision du Sénégal nous en dira davantage. Le Niger a mis en place un important dispositif sécuritaire pour empêcher des incursions de Boko Haram.
Il s'agit de l'opération Ingar, un déploiement militaire de grande envergure, a souligné le ministre, sans préciser combien d'hommes.
Nathalie Barge nous en dira plus et comme prévu, les États-Unis sont opposés à l'ONU au projet de résolution palestinien demandant un retrait israélien des territoires occupés avant la fin de 2017. Ne manquez pas non plus la minute de l'économie et puis les sports. Et en fin d'émission, bien sûr, la musique avec Roger Muntou. Mais pour l'instant, le journal. Des tirs nourris près du palais présidentiel à Banjul, la capitale de la Gambie, ont entraîné des rumeurs de tentatives de coup d'État alors même que le président Yahya Jammeh était à l'étranger. Les tirs ont retenti au milieu de la nuit très tôt mardi, mais la situation semblait être revenue au calme en fin de journée. Selon certaines rumeurs, des soldats liés à la garde présidentielle auraient été impliqués dans les combats.
L'agence France Presse, qui cite un officier militaire, évoque 3 morts, dont le meneur présumé qualifié de déserteur de l'armée. Selon Reuters, l'avion de M. Jammeh aurait fait escale au Tchad la nuit dernière avant de repartir pour la Gambie. Le département d'État américain, ici à Washington, a condamné la violence en Gambie.
Les États-Unis ont dit déplorer l'ordre d'expulsion lancé par le gouvernement de Khartoum contre 2 hauts fonctionnaires des Nations Unies et ils ont appelé le Soudan à revenir sur sa décision. Selon le porte-parole du département d'État, cette décision est préjudiciable aux bonnes relations entre le Soudan et la communauté internationale et au bien-être du peuple soudanais.
On ignore pourquoi Ali Al-Zaatari, coordonnateur du programme des Nations Unies pour le développement, et Yvonne Hell, directrice de l'antenne locale du PNUD, ont reçu l'ordre de quitter le Soudan. Mais en novembre, le président Omar Hassan al-Béchir avait demandé le départ de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour, la MINUAD. Le Soudan avait refusé au casque bleu la permission de se rendre dans un village où des troupes gouvernementales auraient perpétré des viols en série.
Le Niger a mis en place un important dispositif sécuritaire pour empêcher des incursions de Boko Haram dans le sud-est de son territoire, limitrophe du bastion des salafistes nigérians. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement. Nathalie Barge.
Le ministre de l'Intérieur, Assoumi Massaoudou, a annoncé devant les parlementaires le renforcement d'un dispositif sécuritaire qui est déjà en place dans la région de Diffa pour contrer de possibles attaques de Boko Haram, rapporte l'AFP. Il s'agit de l'opération Ingar, un déploiement militaire de grande envergure, a souligné le ministre, sans préciser combien d'hommes. Les députés s'inquiètent du nombre croissant de jeunes nigériens allant grossir les rangs des salafistes nigérians qui contrôlent plusieurs localités près de la frontière, dont Malam Fatori et Damasak. Les attaques de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ont provoqué le déplacement de milliers de personnes vers Diffa, au Niger. Lors du débat au Parlement, plusieurs députés ont fait part de leur inquiétude quant au recrutement de jeunes, garçons et filles, par la secte islamiste. Le député de Diffa, Foukori Ibrahim, est allé jusqu'à affirmer qu'ils sont très nombreux à rejoindre les rangs de Boko Haram. Le ministre de l'Intérieur a, quant à lui, minimisé la situation, disant que seulement quelques jeunes sont partis, notamment pour les promesses d'argent des islamistes armés, et non pas, selon lui, par idéologie.
Au Kenya, le chef d'un groupe séparatiste a de nouveau été arrêté et inculpé hier mardi d'organisation illégale de réunions. Selon des agences de presse, la police kényane le soupçonne de préparer des attaques dans la région côtière de Mombasa, deuxième ville du pays. Jacques Aristide.
Omar Mwamnwadzi a été arrêté lundi soir et a comparu le lendemain devant un tribunal de Mombasa. Mwamnwadzi est à la tête du Conseil républicain de Mombasa, ou le MRC. Ce mouvement réclame l'autonomie totale de cette région majoritairement musulmane du Kenya. Il y a 4 ans, le MRC avait été interdit par le gouvernement kényan, une décision rejetée par la haute cour du pays. Pour Nairobi toutefois, ce groupe opère toujours dans l'illégalité et serait l'auteur d'actes criminels et terroristes, ce que nie en bloc le MRC. Des attaques et attentats perpétrés dans la région côtière, mais aussi ailleurs dans le pays, lui ont été imputés, alors que ce sont les islamistes somaliens d'Al-Shabaab qui sont habituellement accusés de commettre de tels crimes. 6 autres membres de l'organisation ont également été traduits en cour mardi après leur arrestation à Kwale. Hormis la tenue prohibée de rassemblement, ils répondent tous d'une charge de possession de cannabis. Omar Mwamnwadzi, qui est déjà en liberté conditionnelle dans une affaire de meurtre dans la région de Lamu, et ses co-accusés ont été relâchés sous caution.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Camille Grosdidi avec vous. Comme prévu, les États-Unis se sont opposés au projet de résolution palestinien demandant un retrait israélien des territoires occupés avant la fin de 2017. La mesure a été rejetée mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU. Même si elle avait recueilli les 9 voix nécessaires à son adoption, le vote contre des États-Unis, qui disposent d'un droit de veto, aurait entraîné l'échec de l'initiative. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha Powers, a qualifié le projet palestinien de mesure unilatérale et peu constructive. Mais l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour a, lui, évoqué une solution juste au conflit israélo-palestinien. 8 États membres se sont prononcés pour, 2, les États-Unis et l'Australie ont voté contre et 5 se sont abstenus.
Direction Russie, où le leader de l'opposition, Alexei Navalny, a été arrêté par la police peu après avoir rejoint des manifestants qui dénonçaient sa condamnation sur des accusations de fraude. Étant en résidence surveillée, Navalny n'était pas autorisé à se rendre au mouvement. Chérubin Dorsil pour plus de précisions.
Des milliers de personnes sont descendues dans la rue après que Navalny, le principal opposant au président Vladimir Poutine, a été reconnu coupable d'escroquerie au détriment d'une société française de cosmétiques. Son frère Oleg a également été reconnu coupable. Les 2 ont écopé de 3 ans et demi d'emprisonnement, mais Alexei Navalny a bénéficié d'un sursis, tandis que son frère devra purger sa peine, ce que l'homme politique a condamné en s'adressant au juge. « J'ai honte de ce que vous faites. Pourquoi le mettez-vous en prison ?» Quel acte dégoûtant. Tout cela est fait pour me punir davantage, a-t-il dit. À Washington, le porte-parole du département d'État, Jeff Rathke, a qualifié la condamnation de Navalny de troublante pour le gouvernement américain. À notre avis, cette décision est une évolution inquiétante et elle semble viser à punir et décourager davantage l'activisme politique en Russie. Cela semble être un autre exemple de la répression croissante des voix indépendantes par le gouvernement russe. Alexei Navalny est un résident surveillé depuis février pour avoir participé à une manifestation non autorisée. Il était le chef de file de la contestation contre Vladimir Poutine en 2011 et 2012. Il a été reconnu coupable de détournement de fonds en juillet 2013 dans une autre affaire et condamné à 5 ans de prison, mais sa peine a été suspendue plusieurs mois plus tard. La police a renforcé la sécurité à Moscou en prévision de nouvelles manifestations.
Les autorités ont fait appel à des plongeurs mercredi pour sonder la mer de Java à la recherche de restes de l'appareil d'Air Asia qui s'est écrasé dimanche entre les îles de Bornéo et de Sumatra en Indonésie. Des débris de l'avion et plusieurs dépouilles ont été retrouvés à la surface de la mer mardi au large de Bornéo. Il s'agit de retrouver les boîtes noires de l'avion qui enregistrent tout ce qui se passe en vol. Elles pourraient permettre aux enquêteurs de comprendre comment la tragédie est survenue. Pour l'instant, il ne semble pas y avoir de survivants parmi les 162 passagers et membres d'équipage.
Selon la Maison-Blanche, les États-Unis ont présenté leurs condoléances aux familles et aux proches des victimes. Ils ont offert à l'Indonésie de fournir toute l'aide nécessaire. Le destroyer USS Samson est sur les lieux pour faciliter les recherches. Un second navire, l'USS Fort Worth, est déployé actuellement à Singapour et se dirigera vers le site de la tragédie si nécessaire.
Et des gardes-côtes italiens ont pris le contrôle d'un navire battant en pavillon moldave et transportant environ 600 migrants clandestins qui se dirigeaient vers l'Italie. La Minute Éco, l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Jean-Roger Bion. Bonjour Jean-Roger.
Bonjour Camille.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a signé hier la loi de finances 2015.
Oui, le nouveau budget algérien prévoit un déficit de 41 milliards d'euros dans un contexte marqué par la chute des prix du pétrole brut, la principale ressource du pays. Le budget 2015 s'établit à 46,846 milliards d'euros. Le président algérien, M. Bouteflika, a marqué son optimisme malgré tout, affirmant que la dynamique de développement ne sera pas arrêtée par la crise.
Et au Sénégal, le président Macky Sall fait de l'élevage une priorité nationale?
Le chef de l'État sénégalais a réaffirmé son engagement à prendre toutes les mesures pouvant permettre au Sénégal d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans les années à venir. Et l'élevage constitue une priorité dans le plan Sénégal émergent.
J'ai donné instruction au ministre de l'Économie et des Finances pour dégager une enveloppe de 1 milliard destinée aux mutuelles d'éleveurs exclusivement.
Le président sénégalais Macky Sall aux Journées nationales de l'élevage.
Croissance record pour l'économie de la Zambie à 6%.
C'est le bilan établi par Alexander Chikwanda, le ministre zambien des Finances pour l'année 2014. Le gouvernement se félicite par ailleurs de la réduction de l'inflation qui passe de 8,1% à 7,9% cette année. L'État zambien a pour ambition de porter le taux de croissance à 7% entre 2015 et 2017.
Voilà pour la Minute Éco de ce mercredi. Merci Jean-Roger. On enchaîne avec les sports en compagnie de Bagassi Koura. Et tout d'abord, la CAN 2015. Chaque jour, des listes de joueurs sélectionnés sont annoncées.
Oui, bonjour Camille. Michel Dussuyer a dévoilé le nom des 23 joueurs retenus par la Guinée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Bounassar de Metz en France est appelé pour la première fois. Ce joueur a déjà été convoqué en équipe de France Espoir, mais il n'a pas été aligné. D'après Foot Africa 365, 9 des 23 joueurs convoqués évoluent dans le championnat de France, dont Florentin Pogba, le frère de l'autre, et Mohamed Yatara.
Alain Giresse répond à Dembaba.
Oui, très critiqué par Dembaba, qui lui reproche de ne pas l'avoir sélectionné pour la CAN 2015. Alain Giresse, le sélectionneur du Sénégal, a simplement répondu à l'attaquant de Besiktas par des chiffres. Je rappelle que nous avons livré 6 matchs, dit Alain Giresse, dans les qualifications et que nous en avons gagné 4 sans lui. Bon, je crois que ça vous a échappé, a répondu l'ancien milieu de terrain de l'équipe de France.
Et puis le gardien américain d'Everton, Tim Howard, il s'est blessé au mollet.
Oui, selon l'entraîneur des Toffees, Roberto Martinez, Tim Howard sera indisponible jusqu'à 6 semaines. L'AFP rapporte que le portier international de 35 ans, titulaire avec les États-Unis lors du Mondial 2014, s'est blessé vendredi dernier lors de la défaite à domicile contre Stoke 1-0 avant de céder sa place.
Le Barça est interdit de transfert.
Oui, le TAS, le tribunal arbitral du sport, a confirmé l'interdiction de transfert du FC Barcelone pour les deux prochaines périodes, soit jusqu'en janvier 2016. Et cela pour des infractions relatives au transfert de 10 joueurs mineurs. Le club espagnol devra également s'acquitter d'une amende de 450 000 francs suisses.
Et on termine avec le championnat nord-américain de basketball, la NBA. Les Pistons de Detroit ont écrasé l'Orlando Magic. 109-86, les Cavaliers de Cleveland se sont inclinés face aux Hawks d'Atlanta sur le score de 109-101. Les Spurs de San Antonio sont restés à la traîne face aux Grizzlies de Memphis pendant tout leur match avant de s'incliner 95-87. Et puis Phoenix s'est débattu face aux Hornets de New Orleans, mais a perdu 110-106.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Amigro Didier avec vous pour cette deuxième section de notre programme de nouvelles matinales. Alors, nous enchaînons avec les magazines. Les États-Unis ont dénoncé hier, mardi, la tentative de coup d'État survenue en Gambie. Lors de son point de presse, le porte-parole du département d'État a fermement condamné toute tentative de s'emparer du pouvoir par des moyens anticonstitutionnels. Sur place en Gambie, les autorités semblent avoir repris la situation en main. Mariama Diallo, de la rédaction centrale de La Voix de l'Amérique, a joint hier soir à Serekunda, en Gambie, notre confrère, Kandakar Ndiaye de la radiodiffusion-télévision du Sénégal.
Il y a eu un mouvement d'humeur de la part de certains militaires et donc là, véritablement, ils se sont tout petit peu rebellés. Mais la situation a été maîtrisée, maîtrisée tant soit peu. Il est vrai que dans des situations comme celle-là, évidemment, les altercations, les rumeurs vont bon train. Mais ce qui est clair, c'est que la situation est nettement maîtrisée. En tout cas, selon certaines indiscrétions, il y a que des politiques ont été arrêtés. Et nous-mêmes, nous avons justement pu constater des gens qui ont été ligotés et qui donc ont été amenés quelque part. Alors là, je ne veux pas trop m'aventurer. On parle aussi de morts, mais là-bas aussi, je ne peux pas confirmer cela, puisque vous le savez, eh bien, ce sont des sources policières, mais également eh bien, d'autres sources qui nous viennent d'autres horizons. Vous savez, dans des situations comme celle-là, les supputations vont montrer un peu partout. Et donc, je ne peux que me fier justement de la bonne information, des informations que j'ai reçues, en tout cas pour l'Est.
Est-ce qu'on a une information sur les putschistes, en fait? C'est qui exactement?
Ce que je peux vous dire, c'est qu'on parle un peu d'un certain commandant Bodian, qui était d'ailleurs, qui s'était réfugié au Sénégal et qui est revenu au Bercail. Et donc là, par la suite, il y a eu d'autres qui se sont rangés derrière. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne peut pas savoir avec exactitude ces gens qui sont derrière ce commandant Bodian-là. En tout cas, c'est son nom qui circule le plus au niveau, en tout cas, des populations, mais également au niveau des forces de l'ordre.
Quelles sont les informations en ce moment sur l'actuel président Yahya Jammé?
Pour l'instant, ce que je peux vous dire du président, c'est qu'en ce moment, donc, hors du territoire, mais d'après certaines informations, il devrait rentrer incessamment au pays. En tout cas, on va attendre d'un moment à l'autre, mais ce sont des informations qui circulent et je peux vous dire que c'est des sources policières tout de même, puisque véritablement, eh bien, nous sommes à côté souvent de ces éléments, mais je ne peux pas avec exactitude dire qu'il est dans Bandoul, mais ce qui est sûr, c'est que je peux vous dire avec exactitude qu'il va incessamment fouler le sol gambien.
Est-ce que la frontière Sénégal-Gambie est fermée en ce moment?
Alors, du côté du Sénégal, naturellement, il n'y a pas de problème. Mais du côté gambien, en tout cas, je peux même dire hermétiquement fermée, puisque personne ne rentre et personne ne sort.
Notre confrère Kandakar Ndiaye de la radiodiffusion-télévision du Sénégal, il était joint hier soir par Mariama Diallo à Serekunda en Gambie.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Faïda à Kaolack.
6h19, temps universel, Camille Grodidi avec vous. Pour Le Monde aujourd'hui, l'UNICEF prédit une explosion démographique en Afrique d'ici à l'an 2050. Parmi les mesures préconisées pour faire face à ce changement sans précédent figure le planning familial, une question qui divise en raison de ses implications culturelles et religieuses sur le continent. D'où la décision du Sénégal d'impliquer les leaders religieux dans le débat. Je vous propose de suivre ce reportage de Chistine Roby à Dakar. Il a été repris ici par Michel Joseph.
Le Sénégal compte plus de 14 millions d'habitants musulmans à 94%. Au moment d'introduire le contrôle des naissances dans le débat national, les autorités ont fait appel non seulement aux agents de santé, mais aussi aux dignitaires religieux. La première étape a été de dégager un consensus sur les bienfaits de la planification familiale, explique Gay Kumba Sey, responsable des services sociaux et maternels à l'Association sénégalaise du bien-être familial.
Pour les religieux, c'est de ne faire pas d'enfants. Donc quand on leur a expliqué que c'est pour la santé de la mère, c'est pour la santé de l'enfant, on ne dit pas ne faites plus d'enfants, mais on a dit faites des enfants, mais espacez les naissances. pour la santé de la mère, pour la santé de l'enfant. Donc maintenant, il y a un pool d'imams qui adhèrent à la planification familiale.
Depuis le lancement en 2011 du plan stratégique de la santé et de la reproduction au Sénégal, avec notamment l'espacement des naissances, le taux de mortalité infantile a baissé d'environ 2%, une amélioration que Mme Gueye met sur le compte de l'influence positive des imams. L'autre composante essentielle de la planification familiale est le père de famille. Dans les sociétés traditionnelles où les femmes ont peu d'autonomie, persuader l'homme à apporter son concours est un défi de taille. De ce fait, l'implication des mosquées dans la dissémination des informations sur l'accès aux méthodes contraceptives peu onéreuses et la nécessité du soutien marital a fait toute la différence, a expliqué Gueye Kumba Sey. Certains pères de famille accompagnent maintenant leurs femmes aux consultations, dit-elle.
Ce qu'on ne pouvait pas avoir avant. Par contre, celles qui ne viennent pas avec leur époux, ils ont l'aval du mari. Rares sont les femmes qui viennent et qui n'ont pas l'accord du mari.
Selon Aïda Ngom, une matrone de l'Association sénégalaise du bien-être familial, les familles commencent à voir d'autres bénéfices de l'espacement des naissances.
La femme aura le temps de s'occuper de son mari et elle prendra soin de son mari et de ses enfants. Et aussi, ça pourra l'aider aussi de prendre bien soin de son enfant.
L'utilisation des contraceptifs par les femmes mariées au Sénégal a atteint 16% en 2013, soit une augmentation de 6% en 2 ans. Dans le même temps, l'Organisation mondiale de la santé a noté une baisse de 6% de la mortalité maternelle.
Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier avec vous. À Djibouti, le gouvernement et l'Union pour le Salut National, une coalition de l'opposition, ont signé mardi un accord cadre portant notamment sur la mise sur pied d'une commission électorale indépendante et paritaire et l'octroi à l'opposition d'un statut. Il s'agira également de renforcer la décentralisation ainsi que la liberté de communication. Pour des précisions, Timothée Donangmaï a joint Daher Ahmed Farah, porte-parole de l'Union pour le Salut National, la coalition des partis d'opposition de Djibouti.
C'est important puisqu'il permettra à notre pays de déconnaître des élections libres et transparentes, d'avoir une décentralisation plus forte, plus à même de répondre aux besoins des populations, de permettre une meilleure liberté de communication, une meilleure liberté de presse, de médias, un meilleur pluralisme, toutes choses importantes pour le développement de ces pays. Comme vous le savez, la démocratie et l'état de droit sont une condition du développement. Et ces réformes que l'opposition demande dans le cadre de cet accord sont tout à fait nécessaires à l'intérêt général.
Quelles sont les prochaines étapes de ce processus?
Dans les jours qui viennent, les députés de l'opposition vont faire leur entrée à l'Assemblée nationale, où ils vont jouer le rôle d'opposition parlementaire. Ils vont également débuter les discussions sur la réforme démocratique entre l'opposition et les gouvernements, sur le point que je viens d'évoquer, à savoir la Commission électorale nationale indépendante, le statut de l'opposition, et puis un peu plus tard, la décentralisation, la réforme de la loi sur la communication et toute autre réforme de nature à renforcer la démocratie à Djibouti.
Par le passé, les leaders de l'opposition à Djibouti, y compris vous-même, ont été souvent inquiétés par le pouvoir. Est-ce qu'on peut dire que la sérénité est de retour sur la scène politique à Djibouti?
Nous l'espérons avec la signature de cet accord cadre, ça fait partie aussi de l'accord, qui doit cesser. C'est que nous, à l'opposition, nous appelons le harcèlement anti-USN ou le harcèlement contre l'USN. Et effectivement, c'est la moindre des choses pour que cet accord ait un sens et pour que la vie politique s'apaise, que les opposants, d'une manière générale, pas seulement les dirigeants de l'opposition, mais aussi les militants, ne soient plus inquiétés et qu'ils puissent exercer leurs activités politiques dans la sérénité, dans la paix.
Monsieur Daher Ahmed Farah, porte-parole de l'Union pour le Salut National, coalition des partis d'opposition de Djibouti.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi 1er janvier 2015. Un coup d'œil dans le rétroviseur et ce qui peut nous attendre dans la nouvelle année. Un survol des grosses actualités qui ont marqué 2014 et qui risquent de faire toujours la une en 2015. Rendez-vous ce jeudi à 19h TU sur VOA Afrique. Au nom de toute l'équipe, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé.
Et on passe à la page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Camille. Le chanteur américain Kid Rock est connu pour sa musique crossover entre le rap, le rock, le metal et la country. Mais écoute Camille, c'est la fin de l'année 2014 et dans quelques heures le début de l'année 2015, Kid Rock nous chante ce matin Happy New Year.
Kid Rock a été classé aux premières places de la plupart des top 10 mondiaux.
Oui, et cela grâce à ses chansons telles que All Summer Long. Kid Rock utilise une grande variété des sons et des genres, passant du hip-hop au hard rock, à la musique country ou au rap. Et d'ailleurs, Camille, il a toujours dit dans ses interviews qu'il était créativement perturbé, expliquant qu'il fut élevé en écoutant des albums de rock et de musique country de ses parents, avec des artistes tels que Bob Seger, Johnny Cash ou encore Elton John. Lors de la montée en puissance du rap dans les années 1980, Kid Rock étendit ses goûts aux Beastie Boys ou à Run-DMC.
C'était Kid Rock dans Happy New Year. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Camille. Happy New Year. Bonne année à tous les auditeurs de VOA Afrique.
Et bien sûr, vous retrouverez Roger Muntou dans le RM Show à 20h temps universel. Let's get shit faced. Let's get shit faced. Let's get into trouble. Let's get out of this place. And I have faith in the coast that you cleared. Say you love me. Happy New
far. We can crawl on our knees. What we're feeling, we can't do here. Sexual healing. Happy New Year. I know you're thinking I must be crazy. Don't sweat that small stuff. Kiss me, baby. Yeah, it's September, but with you here, every night is a happy new year. Happy new year, happy new year, let's raise a glass, cheers to you, dear, I'm so glad.
C'était Kid Rock, c'est presque la bonne année, la nouvelle année. Mais on abandonne la musique, le monde aujourd'hui s'achève, du moins cette édition matinale qui vous était apportée en direct de nos studios ici à Washington. Merci à Georges Léonard Sagnot pour le suivi de l'actualité et puis la mise en onde. Au micro, Camille Grosdidier qui vous souhaite une très très bonne journée, votre dernière journée de 2014. Alors il faut la passer à l'écoute de la Voix de l'Amérique.